Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
Bon, parlons de politique publique avec Patrick Derry. Patrick, bonjour.
Excusez-moi,
je parlais avec Élise de sa page en 5 minutes, là, où on voit plein d'affaires scientifiques vraiment intéressantes. Le bilan COVID, ça a l'air de quoi, Pat?
Oui, écoute, on a 784 cas. Je le rappelle pour mettre en contexte, parce que les derniers jours, on a vu des journées à 900 puis à 1000 cas et même presque 1200 cas. Fait que ça peut donner l'impression que c'est une baisse, mais en réalité, en début de semaine, c'est toujours plus bas. Fait qu'on a plus de cas que lundi passé, ce qui veut dire qu'on a encore une tendance qui est à la hausse. Les hospitalisations, plus un aujourd'hui. Encore là, si on regarde ça sur une semaine, on a une vingtaine d'hospitalisations de plus. On est à 227, alors qu'une semaine, on était à 203. Et fait que donc ça monte un peu. Soins intensifs aussi, on est rendu à 51 plus 6 et 3 décès. Donc, tu sais, quand on dit des fois c'est juste les cas, les hospitalisations, quand il y a une hausse de cas, finissent toujours par augmenter. Évidemment, ils vont moins augmenter si c'est une population plus jeune, mais ça se déplace un peu, puis c'est ça qu'on n'a pas besoin. Tu sais, si on a 10% cette semaine alors que la hausse des cas remonte à presque un mois maintenant, ben probablement que les hospitalisations vont monter la semaine prochaine, la suivante, sans que ça atteigne les niveaux de l'an dernier. On a vraiment pas besoin de ça.
Non, pas bien. Ben, je lisais 6300 cas en une semaine, ça revient à peu près à 900 cas par jour.
Ouais.
Quand tu mets ça sur une échelle d'une semaine, là, tu dis on n'est pas sorti du bois.
Non, mais tu sais, on a une hausse d'à peu près 25-30% des cas par rapport à la semaine passée seulement. Là. Évidemment, on va voir qu'est-ce qui va arriver. En plus, bon, évidemment, ce qui arrive avec Omicron, là, qu'on sait qui semble-t-il qui est arrivé aux Pays-Bas plus tôt qu'on pensait, c'est-à-dire même avant que l'Afrique du Sud rapporte des cas, il était déjà aux Pays-Bas. La liste de pays s'allonge, Autriche, Portugal, Espagne, Suède, Japon, ça commence à faire beaucoup. Et même le gouvernement d'Afrique du Sud qui dit, écoutez, nous autres, on a été transparents et on est un peu pénalisés là-dessus parce qu'évidemment, l'Afrique du Sud est isolée, mais finalement, le variant, il est peut-être à plus d'endroits qu'on pense. Et je reviens avec ça, avec les cas. Les données des écoles de la semaine passée ont été complétées hier et on a un record de cas dans les écoles pour la quatrième vague et presque un record absolu cette année. On a 2029 cas dans les écoles du Québec la semaine passée. Au printemps, le sommet qu'on avait atteint, c'est 2055. Mais faut comprendre que présentement, on a à peu près 90% des éclosions et probablement des cas qui sont au primaire. Donc, en nombre absolu, là, on a beaucoup plus, on a presque en fait deux fois plus de cas dans les écoles du primaire que ce qu'on avait au printemps quand on avait éventuellement décidé de fermer les écoles. Mmh. Et hier, moi, j'entendais M. Dubé qui disait, il faut apprendre à vivre avec le virus. C'est correct, là, t'sais, le virus partira pas. Mais t'sais, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on pourrait aussi apprendre à vivre avec des écoles qui sont ventilées adéquatement?
Mmh. Et pas en ouvrant les fenêtres en plein hiver, là. Pas en pensant comme des cabochons, en ayant des échangeurs d'air, des purificateurs d'air qui sont bien installés. Je pense qu'il y en a des réparateurs Maytag au Québec, non?
Écoute, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais ça doit sûrement s'arranger. Puis un purificateur d'air, ben si tu branches dans un mur, là, il peut avoir des ajustements électriques dépendamment. Mais tu sais, ça se fait. Et en Ontario, c'est juste pour rappeler, là, la province voisine, là, pas sur notre planète, là, la ventilation est améliorée, là, je pense, entre 50 000 et 70 000 classes là, qui ont été qu'on s'est occupé du problème là, avant la rentrée. Ça inclut des fois de la ventilation mécanique, ça inclut des fois des purificateurs d'air, mais tu sais, on s'en occupe. Et l'Ontario, aujourd'hui, ont vraiment beaucoup moins de cas qu'au Québec. Et je rappelle, il y a aussi la COVID longue aussi. Fait que les enfants, ils sont exposés, on s'en occupe pas. Et là, je veux venir au rôle des journalistes là-dessus, parce que hier, je regardais le... Bon, je me ferai pas d'amis, en tout cas, j'ai travaillé dans des salles de rédaction, et j'ai encore des amis, ils vont peut-être m'aimer moins. Mais, tu sais, on a une conférence de presse qui dure à peu près 50 minutes. On a un record de cas sur les écoles. On savait dès la semaine passée là, que ça s'en allait vers quelque chose de très, très élevé. On n'a aucune question pendant la conférence de presse sur on laisse ça monter jusqu'à où, les écoles? Est-ce qu'on s'en occupe? Pourquoi qu'on refuse de s'occuper de la ventilation alors qu'on sait que c'est un problème majeur?
Non, c'est un problème politique. Jean-François Roberge nous boycotte depuis que je lui ai posé les questions. Puis il a une tête de cochon. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Là. Il veut pas admettre que peut-être je l'ai échappé au début. Puis savez-vous quoi? Peut-être Marois Risky avait raison de poser les questions aussi souvent à l'Assemblée nationale. Peut-être que c'est pas une question politique. Peut-être c'est une question de santé publique. Puis c'est le bon docteur Arruda qui sait pas comment se mettre les pieds l'un devant l'autre qui devrait intervenir pour imposer une ventilation adéquate dans les écoles. Mais il n'y a rien qui se fait là-dedans.
Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher la pression. Puis, tu sais, hier, tu regardes, moi, ça fait rire des fois les titres des manchettes parce qu'on ne sait pas comment se construire une nouvelle. Tu sais, on voit ce matin là, dans tous les médias, M. Legault qui dit à peu près ceci, là, François Legault évoque un Noël à 25 convives, souhaite des rassemblements à 20 ou 25 personnes. Ça, c'est pas une annonce du gouvernement qui a été faite. Monsieur Legault, hier, il était pour l'ouverture du Club Med. Il a le temps de faire ça, apparemment, ces temps-ci. Évidemment, ça paraît bien. Pour dire... et il se fait poser une question pendant la conférence de presse. Là-dessus, puis là, il parle de ce qu'il aimerait qu'il se passe pour Noël. Là, le journaliste s'aligne. Les journaux ont leur titre. Ça fait une nouvelle. Un, il n'aurait pas dû se prononcer là-dessus parce que c'est extrêmement imprudent. Deux, ça met une pression indu sur la santé publique qui, à un moment donné, a d'autres arbitrages à faire et qui ne devraient pas tenir compte de ça. Mais surtout, c'est les journalistes, me semble, tu sais, il y a d'autres questions à poser. Surtout, moi, je comprends qu'à un moment donné, on est tanné de poser les mêmes questions et qu'à un moment donné, on change de sujet. Par exemple, la ventilation, il y a eu plein d'articles là-dessus, puis le gouvernement veut juste que ça passe. Mais justement, la dernière chose à faire là-dedans, quand un gouvernement, peu importe la couleur politique, veut passer à un autre sujet, puis qu'il y a un problème réel, qu'on peut régler, qu'il y a des moyens, que ça se fait juste à côté de chez nous, de l'autre côté de la rivière des Outaouais, il faut pas lâcher. Il faut mettre de la pression. Il faut poser ces questions-là, même si c'est désagréable. Il y en a toute une liste. Hein? Pourquoi refusez-vous de vous occuper de la ventilation? Pourquoi le Québec laisse dormir les tests rapides au lieu de les utiliser ailleurs? Pourquoi on n'a pas de clinique de tests rapides comme en Nouvelle-Écosse? Pourquoi le Québec ne distribue pas des autotests gratuits pour la maison comme en Angleterre, en France, en Allemagne, en Autriche? Est-ce qu'on serait en meilleure position à l'approche de l'hiver si on s'était occupé correctement des écoles? Et trouvez-vous que c'est approprié de mettre de la pression sur la santé publique pour Noël en disant publiquement ce que vous souhaitez? Et c'est peut-être un peu plus désagréable, puis peut-être qu'à un moment donné, tu te fais regarder de travail, puis les attachés politiques aiment pas ça.
Non, mais ils reviennent plus. C'est parce que tu poses des questions, là, Patrick, là, dans le monde politique qu'on connaît, que ce soit au municipal, au provincial, puis au fédéral, quand tu poses des questions carrément, poliment, aux élus, puis ça les choque ou ils ont pas les bonnes réponses, ils reviennent plus. Puis là, ils te boycottent ou ils te droppent ou, tu sais, c'est vraiment particulier. Puis les questions que tu poses, ce sont les bonnes. Puis comment se fait que Jean-François Roberge est encore ministre de l'Éducation alors que cette question sur la ventilation des écoles, c'est une occasion ratée qui dure depuis 2 ans?
Il y a ça, mais il y a aussi des sous-ministres, un sous-ministre adjoint et d'autres conseillers aussi qui, à un moment donné... Pendant que le ministre Roberge, on le sait, on n'a pas le droit de le dire à l'Assemblée nationale, au semble que le ministre mentait, mais manifestement, il mentait, c'est clair. Je veux dire, il y a une kyrielle de reportages qui ont montré que le ministre mentait, ou sinon, en tout cas, qu'il était vraiment terriblement mal informé que quelqu'un d'autre sous lui mentait. Et la santé publique a été complice de ça. Ils ont fini par dire du bout des lèvres qu'ils n'étaient pas nécessairement super contents de ce que le ministère avait dit parce que c'était pas ça qu'ils recommandaient ou en tout cas c'est pas tout à fait ça qu'ils avaient dit. Mais tous ces gens-là ont encore leur poste, sont pas inquiétés et quand on pose des questions sur Noël, honnêtement, c'est un peu une fuite-passe. Puis là, évidemment, l'opposition qui peut-être devrait faire un meilleur travail aussi. Là, si je comprends que c'est difficile, ce sont 4 partis à essayer de se battre pour avoir un peu d'attention. Mais là, présentement, le gouvernement, et je rappelle, c'est pas une question de couleur politique, c'est une question de solution facile refusée,
ouais,
que d'autres d'autres juridictions prennent, puis ben c'est ça, on leur laisse le champ libre. Mmh.
Bon, puis on le sait là rapidement, Patrick, 150 000 chirurgies en attente, c'est des chiffres qui ont bondi.
C'est évidemment, la pandémie les a fait gonfler de façon assez importante. On a entre autres 20 000 patients qui attendent depuis un an ou plus. Avant la pandémie, c'était 6 000. Bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ces deux indicateurs-là n'ont pas trop bougé depuis février, là, quoi qu'il y ait une tendance qui est à la hausse. Évidemment, la mauvaise, c'est qu'on manque de monde, puis que les infirmières et les médecins vieillissent. Il y en a qui sont aussi partis. Fait qu'on a besoin de quoi? On a besoin de gains de productivité. Et comment qu'on fait ça? L'important, c'est que le patient se fasse opérer, soit couvert par l'assurance maladie. Après ça, où il se fait opérer, ça a moins d'importance. On a eu du succès dans des cliniques privées. Et je pense qu'il faut qu'on aille de l'avant, comme les modèles européens, où la couverture est universelle, mais où c'est beaucoup plus souple comme système. Et il y a des, tu sais, on le sait, quand c'est en clinique, c'est un peu mieux organisé, c'est plus productif. Faut vraiment pas hésiter à aller vers ça parce que sinon, écoute, je sais pas comment on va s'en sortir. Bon. Puis peut-être la rémunération des chirurgiens est à voir parce que si on veut qu'ils travaillent un peu plus, peut-être on doit les payer juste un petit peu moins en fonction de l'acte.
Ouais, c'est ça. Parfait, Patrick Derry, merci. À demain.
Bonne journée. Bye bye.